Sur le bonheur, l'émission qui met le bonheur au centre de ses priorités. Ici Nicolas Lehoux, en compagnie de Robert Rivard.
Bonjour.
Et de Jacques Couture.
Bonjour.
Nous sommes à Montréal, dans les studios de Radio Centre-Ville, et notre thème aujourd'hui sera « Le mal et le fumier dont le bien a besoin pour devenir le mieux ». Nous sommes dans une société très basée sur le bien et le mal, la dualité, le noir, le blanc, les hommes, les femmes. Mais bien sûr, il y a un par-delà, le bien et le mal. On a déjà eu une émission sur le sujet d'ailleurs. C'est aussi le titre d'un livre de Nietzsche. Par-delà, le bien et le mal, il y a seulement ce qui est. Et si on peut sortir de cette dichotomie, de ce gros problème du mal aujourd'hui, on pourrait se rendre compte que finalement... ce n'est pas si important que ça. Et le mal sert le bien, comme un peu la limite qui nous permet de nous illimiter.
OK. Voilà ta virgule, ton point. Et okay, d'accord. Alors, on continue là-dessus. Ben, tu es en train de dire des choses intéressantes. Sortir de la dichotomie, oui. Alors, il y a bien des exemples à voir ça. Le mal, le bien, on cherche habituellement à associer cela avec un sens de moralité, qui est un problème parce que ça varie dépendant où ce que t'es. Et c'est drôle parce que le bien, le mal, le sens de moralité, tout ça, c'est incroyable comment les êtres humains en général ont une soif, mais une soif terrible pour un livre. Noir et blanc, écrit noir et blanc de règles, qui va leur dire c'est quoi qui est correct, c'est quoi qui n'est pas correct. Et puis, ils sont prêts à vraiment à se plier en quatre, en deux, à genoux, de se soumettre à cette loi, ce livre de règlement qui ne vient pas d'eux autres, mais qui vient d'une autre autorité à l'extérieur d'eux-mêmes. C'est quelque chose à réfléchir, ça, parce que c'est vraiment un des fléaux de l'humanité. C'est cette nécessité de se faire dire c'est quoi qui est bien, c'est quoi qui est mal, et de d'y rester rigide.
Bien, évidemment, en ayant une vie libre, une vie non conventionnelle, lorsque je parle de moi, évidemment, en particulier, en étant gay, etc., je pense que je dis pas que cela est mal aucunement, mais c'est quelque chose qui est personnel et plusieurs de gens autour de moi pourraient dénigrer, voir ce comportement-là étant comme non souhaitable en se basant sur des anciens écrits. On disait, je pense dans la Bible, que c'était je ne sais plus les termes qui étaient qu'on faisait tout pour éviter ce comportement-là.
Mais d'ailleurs, dans certains pays, c'est encore illégal.
Illégal, voire sous peine de torture, d'être persécuté, d'être emprisonné ou même de peine de mort aussi dans des cas extrêmes, évidemment. Donc, je pense que le bien et le mal, j'aime oser aller au-delà du bien et du mal, donc d'être pleinement moi-même, donc de tout faire pour ne pas être conforme à ce qu'on attend de nous. On dit, il y a tant de lois, tant de règlements, mais mieux vaut, pour s'épanouir, ne pas suivre les lois. Donc, d'être, on dit, il y a des gens anarchiques. Donc, être anarchique, oui, suivons pas les lois, mais faisons-nous, faut pas se faire prendre, par contre, si on veut être dans la liberté. Donc, ça, c'est un peu controversé déjà de l'amener comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que je souhaite dans ma vie vivre tout ce que j'ai le goût. Et ce que j'ai le goût va dans le sens de ma conscience. Et ma conscience va me dicter ce qui est éthique.
C'est très important, moi, de faire la différence entre la morale et l'éthique. Parce que la morale, c'est le flic dans la tête. C'est la loi des autres. Alors qu'une éthique personnelle, c'est, ça ne varie pas dans le temps, ça ne varie pas dans l'espace, parce que c'est très relatif, là, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est mal. On parle ici en Occident de l'axe du mal, la Corée du Nord, la Chine, mais j'imagine que là-bas, ils parlent de nous comme étant le mal. On sait, alors c'est, tout est une question de perspective, qu'est-ce qui est mal ici, peut être très bien là-bas, et... Par exemple, je sais pas, en Inde, le mariage de jeunes femmes, ben c'est même pas des femmes à ce moment-là, c'est des jeunes enfants. Filles. Mm-hmm. C'est très bien vu dans certaines communautés, alors qu'ici, c'est le contraire. Mm-hmm. On voit ça comme de la pédophilie.
Ou encore là, si on parle en fonction des époques, évidemment, on parle de la Grèce antique. Puis à cette époque-là, être adolescent, être jeune, c'était de vivre pleinement sa sexualité, ce qui était prôné avec un guide, un mentor, un homme pour ces jeunes-là. Aujourd'hui, c'est le discours contraire. On souhaite tout faire pour éloigner les jeunes des gens plus âgés, des guides ou quoi que ce soit, ou des mentors. Donc, c'est deux façons, deux points de vue. Mais comment vit-on? Moi, je parle de ce que j'étais, comment je me sentais quand j'étais adolescent. J'aurais aimé pleinement vivre à cette époque-là de la Grèce antique. Je ne savais pas. Là, j'ai connu quelqu'un récemment qui, lui, a un discours, a une vie bien différente que la mienne en tant qu'adolescent. Mais moi, je n'ai jamais réussi. Je n'avais aucune sexualité avec les personnes de mon âge. Je pensais que ce n'était pas possible. Je pensais que c'était dangereux, que je pouvais me faire tuer si moindrement j'éprouvais des désirs ou je le manifestais à quelqu'un. Et la personne dont je vous parle, que j'ai rencontrée récemment, lui, il m'a dit, mais il a tout fait dès l'âge de 12-13 ans. Lui-même avait beaucoup d'audace. C'est sûr, c'était dans un autre contexte culturel, c'est dans un pays d'Amérique du Sud. Et il s'amenait à vivre tout ce qui avait le goût. Il allait vers les adultes, les gars, les hommes de 20, 25, 30 ans et plus, pour vivre la sexualité comme il le souhaitait. Donc, tout est possible quand on le veut vraiment. Puis c'est au-delà du bien et du mal, donc toutes ces considérations-là. Vivons pleinement notre vie, vivons ce que l'on a le goût, vivons nos désirs, évidemment.
Mais si je voulais donner un exemple pour que les auditeurs comprennent mieux ce que je veux dire avec cette phrase-là, on pourrait penser, par exemple, à un feu de forêt. Un feu de forêt, ça ravage tout, mais pour la majorité des gens, c'est très mal, ils vont perdre leur maison, etc. C'est très superficiel. En réalité, une fois que c'est passé, après quelques années, tout a repoussé et même ça crée une diversité, ça ramène, un peu comme un volcan aussi, ça ramène beaucoup de nutriments, d'énergie dans le sol. Mm-hmm. Alors, ce qu'on voit comme mal, finalement, avec le temps, c'est peut-être que ça devient le mieux. Mais si on regarde les choses de trop près, j'ai l'impression qu'on ne voit pas clairement la vérité telle qu'elle est.
Est-ce qu'on a une perspective d'à court terme aussi, hein? On fait un portrait dans le temps quand on parle de ça. Le père, son fils quitte un jour de la famille, puis il est très fâché de ça parce qu'il ne prend pas ses responsabilités, etc. C'est-tu bien, c'est-tu mal, on ne sait pas. Un jour, il revient à la maison. Est-ce que c'est bien ou c'est mal? Je ne sais pas. Mais un jour, il se brise la cheville complètement, puis il est incapacité. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bien ou c'est mal? Je ne sais pas. Le lendemain, l'armée vient pour le recruter, mais vu qu'il s'est blessé, il ne peut pas être recruté. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas? T'sais? Tu regardes comme ça sur un espace chronologique, le bien ou le mal varie dépendant de ce que tu regardes puis dans le temps que tu regardes.
Moi, dans le fond, ce que je pense, c'est justement qu'on en a besoin la Terre. C'est un fumier, c'est quelque chose de nécessaire. Le mal, on pense aux guerres, bon, la Deuxième Guerre, Première Guerre. Mm-hmm. Ça a été des moments très douloureux pour l'humanité. Mm-hmm. Mais en même temps, il y a eu des avancées au niveau de la technologie, des choses. Ça l'a fait comprendre des choses à l'humanité, des choses que peut-être qu'on ne veut pas revivre. Donc, le mal est... Et il me semble quelque chose de nécessaire, un peu comme si on a des ennemis, au lieu de les attaquer, mais on pourrait les appuyer, les aider à nous attaquer. C'est pas facile à imaginer ça, mais je crois que si tu appuies ton ennemi, tu le désarçonnes. Il va faire ce qu'il a à faire puis il va te renforcer d'une certaine manière. Mais ça, c'est pas très évident. Là. Moi, je joue avec cette pensée depuis longtemps. Appuyer ses ennemis, c'est pas toujours évident dans une société de victimes.
Ou c'est sans doute d'avoir une attitude où on ne se sent pas en confrontation ou en disharmonie devant la situation. On se dit, bien, il fait partie de l'absolu, de tout ce qui existe dans les réalités, même si il y a une attitude antipathique à mon égard. Ben moi, je m'aime tellement, ben peu importe, je comprends pas trop, mais il y a des côtés de moi-même que je sais qu'il n'aime pas, des caractéristiques, une façon dont j'ai d'être, par exemple. Puis cela le concerne lui avant tout. Puis cela ne doit pas entraver mon bonheur, ma façon de vivre la vie.
Parce que si j'ai un ennemi, par exemple, qui me veut du mal, bien, je vais faire beaucoup plus attention. Je vais toujours vérifier, je vais pas donner des ouvertures. Donc, je reste plus conscient. Alors, un ennemi est peut-être mieux parfois qu'un ami indolent qui ne va pas te dire la vérité. Mais on va vous laisser réfléchir sur cette pensée et on va passer une pause musicale avec Dana Kill qui chante « Je ne regrette rien ». Puis nous allons revenir avec ce thème « Le mal est le fumier dont le bien a besoin pour devenir le mieux ».
Je n'ai plus besoin de balayer les amours,
yeah,
avec leur trémolo.
Each and every day, like I'm with you.
Balayer pour toujours.
Swinging right along the way.
Je repars à zéro.
And I have no regrets, I love you, baby.
Exactly how I know it's gonna be, baby. You I love the most, and the closest I will tell you. But I have no regrets for loving you. Cause I see that you're interested in me, baby. And I always put my interest in you, yeah. Yeah, what I see is I never make you blue, never turn my back on you. Never do that in any way. I will tell you, say no regrets. I may say no regrets. I say that, I say it over and over again. Yeah, baby, stick them all up in and I'll tell you when I want to see you again. So I said, never would I ever, never, 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 never would I ever, ever, ever do that again, baby. Turn my back on you, I never make you blue, cause I will tell you, say, no regrets. Yeah, none at all, I tell you. I give you my respect and you give me your respect, and that's life and direct. Tell you. But I see that I need you so, and I would never let you go. You are loving not another human being, but I would never, ever, never, never.
propos sur le bonheur, notre thème aujourd'hui est « Le mal et le fumier dont le bien a besoin pour devenir le mieux ». C'est vrai que c'est un peu abstrait, mais on peut synthétiser ça en quelque chose d'extrêmement simple. C'est thèse, antithèse, synthèse. C'est quelque chose qui fonctionne comme le triangle, on voit ça en philosophie. Si on a quelque chose, puis on vient le contredire, après ça nous permet de le transcender, de le synthétiser. Alors que si on avait juste le bien, juste le mal, on serait pris dans la dualité. Et c'est ça le grand danger, parce qu'on est pris dans la dualité depuis au moins 3500 ans. Par exemple, dans l'Évangile, c'est écrit « Ne luttez pas contre le mal ». Et pourtant, l'Église parle de lutter contre le mal, de combattre le mal. Donc, il manque d'unité si je parle de la Bible, par exemple, de l'Évangile. Et à mon avis, les gens qui dirigent la société, qu'on parle de l'Église, de l'État, des banquiers, ces gens-là ont avantage à nous diviser. Ont réellement avantage à faire que ça soit bien, mal, alors qu'eux-mêmes se placent hors de ça. On sait bien, peut-être, il n'y a peut-être pas beaucoup de gens qui le savent, mais la Deuxième Guerre mondiale, en fait, on pense toujours que le grand méchant, c'est Hitler. Mais qui a donné l'argent à Hitler? C'est les Rothschild. Les Rothschild ont donné de l'argent d'un côté à Hitler, de l'autre côté à toutes les autres. Ils ont laissé tout le monde s'autodétruire. Et ils ont ramassé l'argent après. Et pourtant, Rothschild était lui-même...
de confession juive.
Juif. Oui. Et ça ne l'a pas empêché de fonder Israël. Alors, il y a des gens comme ça qui sont part de là, le bien et le mal. Pour eux, ce n'est pas très important. Alors pourquoi on ne pourrait pas vivre comme ça, justement, d'une manière...
Parce qu'ils sont considérés, Rothschild et tout ça, c'est considéré comme des gros méchants. Donc, on ne veut pas être comme des gros méchants.
Oui, mais eux ne doivent pas se voir comme ça. Hein? Ils doivent se voir comme des héros,
mais
comme
ce sont des gros méchants. Ce sont des gros méchants. C'est juste que ça fait partie de la... Comme on dit, du bien et du mal. C'est visible, ça, sur différents niveaux. Hein? La pensée taoïste le voit comme un équilibre. Hein? La médecine chinoise le voit comme un équilibre. S'il y a deux polarités. Et puis, tant qu'à moi, tant que tu es vivant puis tu marches sur la planète Terre, tu vas être dans la polarité. Tu ne pourras pas échapper à la polarité. La question est-ce que tu peux arriver à être balancé dans cette polarité-là? Tu peux-tu balancer les deux de façon à être en équilibre, en joie, en jouissance, en bonheur, en ayant cet équilibre-là? Ça va être difficile si ton focus regarde seulement qu'une des deux polarités. T'sais. Mais il faut que tu acceptes ou tu trouves un moyen de voir que c'est tout dans le même carré de sable que ça se passe. Et puis d'avoir la perspective du carré de sable et non pas juste d'un côté du carré de sable puisque le sable est plus foncé qu'un autre côté ou quoi que ce soit. Là. Donc, on est dans la polarité, on ne pourra pas y échapper dans le tridimensionnel, dans le physique. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vivre une vie balancée, une vie en harmonie, une vie qui est vraiment là, vraiment dans la balance. Là.
Beaucoup de gens sont dans la pensée positive aujourd'hui, c'est-à-dire oh, tout est beau, tout est positif, on pense juste au positif. Et c'est là, je pense que là, ces gens-là ne sont pas balancés. Ouais. C'est des gens qui voient le monde avec un seul œil. Et ils ne voient pas que le mal est aussi important, est aussi nécessaire.
Ouais. Le mal, peut-être on peut le vivre dans des expériences personnelles également. Juste d'avoir un gros rhume, une grippe, quelque chose qui nous affaiblit, c'est quelque chose qui permet lorsqu'on le vit, c'est tellement anéantissant. On sent qu'on perd une partie de nos moyens. Hein. La vie n'est pas aussi belle. Ça affecte tout, la libido. Ça affecte notre capacité de faire nos activités au jour le jour. Donc, mais ainsi, lorsqu'on passe au travers de cette situation-là, comment la vie, on veut la mordre, croquer doublement dans la pomme de la vie. Là. Je me dis, là, je l'ai vécu récemment. J'ai eu une période tellement de fougue et d'énergie depuis bientôt presque le début de l'année. Puis là, récemment, depuis une semaine ou deux, c'est même trois semaines, depuis autour presque un mois, à un moment donné, les choses passent. C'est comme il y a des grippes, c'est tellement particulier. On se sent bien, on pense que tout est passé, que tout est guéri, mais ça revient, ça surgit et ça repart. Donc là, je vais beaucoup mieux après toute cette période-là. Mais en même temps, je me dis, que je trouve qu'il y a de quoi de dommage là-dedans. Je ne peux pas profiter autant de la vie. Donc, ce côté obscur de ma santé, de la santé de tous, hein, quand on a un pépin de quoi que ce soit, mais au contraire, lorsque la lumière va revenir, hein, là, la lumière, c'est la santé pleine, totale, que comme j'ai hâte de passer, que cette période-là qui est comme un échec pour moi, hein, mais pourquoi je vis ça? Hein? Après, il y a toutes sortes d'interprétations psychosomatiques ou quoi que ce soit. Comment se fait-il que je me suis donné à vivre cette grippe-là? On dit, il y a une expression qui dit « on a la grippe contre quelque chose, contre quelqu'un ». Bon, je ne sais pas, je ne peux pas l'identifier, mettre le doigt dessus, en tout cas, pour l'instant. Mais en tout cas, pour moi, j'ai vécu comme c'était vraiment très mal d'être dans cet état-là. Hein? Quand on ne va pas bien, on dit « je vais plutôt mal hein? ».
Et pourtant, moi, j'ai remarqué que c'est quand je suis malade ou quand ça va vraiment mal que je me rends compte à quel point c'est plaisant quand on est… des fois, être toujours bien… On n'apprécie pas nécessairement
notre état.
Et c'est quand ça va très mal. Je veux dire, des petites grippes, ça passe vite, mais imagine, bon, j'ai eu une opération au nez à un certain point, puis ça faisait vraiment mal. Mais en même temps, je me rendais compte à quel point c'est facile de vivre quand tout va bien. C'est quand tout va mal que là, tout se complexifie, mais ça te permet d'aller de nouveau de la synthèse, justement. Je veux dire,
Contraste.
Tu te fais mal au doigt de ta main qui écrit, tu n'es plus capable d'écrire. Ça change tous tes réflexes et ça oblige à penser différemment. Donc, il faut savoir aussi profiter de ces petites choses qui semblent mal, mais qui nous amènent vers le mieux.
D'ailleurs, moi, je dirais que le pouvoir du contraste par être témoin de quelque chose qu'on veut vraiment pas, par exemple, ça t'amène ça t'aide à définir vraiment ce que tu veux. Donc, tu vois l'opposé de ce que tu veux, tu dis, ben c'est vraiment pas ça, ben ça va t'aider jusqu'à un certain point. Tu veux pas mettre ton attention sur ce que tu veux pas, là, plus qu'il faut, là, mais une fois que c'est fait. Donc, la présence de l'opposé de qu'est-ce que tu désires, que ce soit dans le... On espère que les gens veulent... On n'espère pas, là, je parle pour moi, là. Je peux faire le plaisir, je peux faire la bonne humeur, je peux faire me sentir bien, flotter plus que être sous la pesanteur, la gravité, puis un manque de vie ou quoi que ce soit. Donc, vu que c'est ça mon préféré, quand je regarde, j'observe le contraire, ben ça me permet de me rappeler aussi que je veux m'en aller. Donc, encore là, le bénéfice du fumier qui vient m'indiquer, c'est pas ça que je veux sentir, c'est pas ça que je veux voir. Donc, je suis content qu'il est là pour m'indiquer dans quelle direction je veux m'en aller.
Ça m'est arrivé cette semaine, justement. Bon, des fois, sur Facebook, il y a des vidéos qui passent, puis il y en a un qui est passé comme ça, c'était une place où ils tondaient les moutons.
Ah oui?
Et puis là, tu voyais, c'était une caméra cachée, puis là, tu voyais ceux qui les tondaient, battre les moutons, le donner des coups de marteau, puis le fait, tu sais, il y avait des grosses coupures, il les cousait la coupure à froid comme ça, puis les moutons étaient bien traumatisés, puis ça m'a vraiment fait mal, tu sais, puis ça a resté avec moi pendant une semaine et demie, c'est encore là dans ma tête, les images étaient très fortes, tu sais, donc ça a poussé une réflexion vraiment, tu sais, puis là, je n'avais pas le choix de faire une synthèse. Je me suis dit, dans le fond, ces moutons-là, ils sont pas là par hasard. Parce qu'il y a des millions de moutons sur la Terre. Il y en a qui sont super bien traités. Il y en a qui sont moins bien traités. Donc, je me suis dit, dans le fond, peut-être que ce sont des gens qui, dans une autre vie, ont fait exactement la même chose aux moutons. Et là, ils reviennent. Donc, ces gens qui battaient les moutons pourraient, dans leur prochaine vie, redescendre au niveau énergétique et subir le même traitement pour comprendre au niveau animal, au niveau le plus primitif, ce qu'ils ont vécu. C'est comme ça que j'ai pu sortir de cette image horrible, parce que c'était horrible. Comment tu peux attaquer des animaux comme ça aussi gratuitement, si ce n'est que l'animal et la personne sont liés ensemble?
Mais ça indique la grande variété de... Tu sais, on parlait tantôt on a déjà parlé dans une autre émission le principe de la cape d'invisibilité de Socrate, je crois.
De Platon.
Et tout ça, l'idée. Alors, on voit que laissés à eux-mêmes, certains types d'hommes et d'êtres humains ont vraiment un sens très, très bas de la valeur d'un animal puis de ce qu'il représente. Hein. bien des gens vont voir ça comme tu veux dire, des insectes, des pestes, des choses qui sont pas utiles. Alors, tout a une balance. Même une coquerelle dans une armoire.
Donc, mes amis, aimez vos coquerelles. Chérissez-les.
Ben, pas à ce point-là.
Bien, on va aller prendre une pause musicale avec le groupe I Am et la chanson qui s'appelle « L'Empire du côté obscur ». Puis nous allons revenir après avec ce thème, le mal et le fumier dont le bien a besoin pour devenir le mieux.
Sentir la chaleur de l'obscurité, pour toi il est l'heure de rejoindre l'armée des guerriers de l'ombre. Ne vois-tu pas ton côté clair qui succombe, c'est ta destinée. Pourquoi vouloir lui résister sans peine, je ferai sauter les verrous de ta volonté. Sois l'autre dans la noirceur la plus pure de l'empereur qui arbore les couleurs du côté obscur.
Obscur, la force est noire, noir comme le château où flotte l'étendard, notre drapeau. Sois sûr. Sous les feux, la vérité est masquée. Viens, bascule de notre côté obscur. La force est noire, noire comme le château où flotte l'étendard, notre drapeau. Sois sûr que sous les feux, la vérité est masquée. Viens, bascule de notre côté obscur.
Nous devons tous deux unir nos efforts pour l'attirer vers le côté obscur de la force.
Je suis le fils de Jafar, le sale rejeton de Dark Vador, le grand Kador, du maniement, le mic j'adore. Adapter ma technique à la manière du caméléon, sans pitié pour mater la rébellion. Millénaire, salive empoisonnée, langue amère, un pilote V50 en tant que sabre laser. Quoi, ma conscience comme seule médaille, je traque et je tripe sans remords tous les chevaliers de Jedi. La haine monte en toi, je le sais parfaitement, je vois ta main droite gantée de noir. Sans espoir, la mutation s'amorce. Ta nature que tu obtures, le côté obscur de la force. Viens vers moi, passe le pont de part en part. Rejoindre ma demeure dans la lune noire. Mars et l'Empire, je lance mes troupes à terre pour éradiquer ce nid de Jean-Claude Godin Skywalker. Petit présomptueux, ne vois-tu pas le nombre déployé? L'armée des ombres, tu seras éliminé. Au nom des forces mystiques qui habitent là dans mon cerveau, je ne donne pas cher de ta peau. Le souffle de la force est en moi. Le microphone crépite, crache des tas de flammes sur les hampoils, le fils de Dieu tremble mais lutte avec ses armes. Renverse les credos qui lui semblent erronés. Brise les traîtres de la tête opéronnée. Par la peur, l'ennemi reste sclérosé. Longue vie au règne de la nuit, d'une théorie qui renverse les croyances établies.
Luke, aide-moi.
Idiote, il est trop tard, tu appartiens au sinistre sombre seigneur vêtu de noir. Casque sous le roc, sous une armure du soldat le plus dur de l'empire du côté obscur.
Obscur, la force est noire, c'est noir comme le château où flotte l'étendard, notre drapeau. Sois sûr que sous les feux, la vérité est masquée. Viens, bascule de notre côté obscur. La force est noire, c'est noir comme le château où flotte l'étendard, notre drapeau. Sois sûr que sous les feux, la vérité est masquée. Viens, bascule de notre côté obscur.
Retour à propos sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est « Le mal et le fumier dont le bien a besoin pour devenir le mieux ». L'être ne se soucie pas du mal. D'ailleurs, même il peut s'y cacher. C'est souvent au cœur même du mal qu'on est le plus en sécurité. Je donne un exemple. Ça s'est passé dans un pays où il y a eu un tsunami. Un couple de Québécois qui était en vacances là-bas. Et cette journée-là, la femme voulait absolument aller faire de la plongée sous-marine. Son mari, ça ne lui tentait pas. Mais elle insistait, elle était désagréable. Il a fini par dire oui, OK, allons-y. Alors, ils vont faire leur petite plongée sous-marine. Ils plongent dans les profondeurs merveilleuse de ce pays chaud. Et quand il remonte, il y a des cadavres partout. C'était la dévastation. Donc, pendant qu'ils étaient dans le fond de l'eau, le tsunami est passé et a tout détruit. Il a détruit l'hôtel. S'ils étaient restés à l'hôtel, ils seraient morts. Mais ils étaient cachés en plein cœur du mal, en plein cœur du tsunami, dans le fond où le courant ne bouge pas. Donc, ça peut arriver parfois que un peu comme aussi une tornade au centre du cyclone, c'est totalement dans la paix. Bon, bien sûr, il faut être capable de s'y maintenir, ce qui est très difficile, mais tout de même, c'est ça le principe. Donc, à mon avis, quand le mal arrive au lieu de s'enfuir, il faudrait peut-être plus l'appuyer et peut-être se mettre en plein centre, voir qu'est-ce qui va arriver. Peut-être que vous avez des exemples. J'aurai un exemple pour plus tard. Là, mais...
Dans le sens de ne pas chercher à vivre un peu les façons, les habitudes comportementales des gens qui sont dans les films catastrophes d'urgence et tout à la Hollywood où les gens sont dans la peur, la frayeur, ils partent vers toutes les directions en émoi et tout. Là.
C'est ça. Quand tu es dans cet état-là, impossible de penser intelligemment, impossible d'écouter ton être, impossible d'avoir de l'intuition. T'es dans la chair.
Oui, dans les réflexes, ouais. Effectivement, de premier degré, effectivement.
D'un autre exemple, peut-être relié, pas relié, mais ça, par exemple, si on parle du concept de ce qu'on connaît comme la mafia, le crime organisé. Ben, le crime organisé, c'est aussi une autre manière de le voir, c'est des gens qui ont une association, un groupe, des familles, des enfants, et puis qu'eux autres aussi voient, eux autres, la loi d'une certaine manière et que les règles devraient opérer d'une certaine manière pour faire le bien pour leur groupe à eux. Donc, dans ce sens-là, est-ce qu'ils sont tous... tu sais, ils disent... tout le monde, de leur point de vue, pense qu'ils font le bien. T'sais. Même, je pense, Hitler, dans sa mentalité à lui, croyait faire le bien dans qu'est-ce qu'il faisait. C'est sujet après ça à l'interprétation des événements puis des faits. Mais c'est ça. Je pense que tout le monde pense qu'ils font bien, même si dans notre perception, ça a l'air du mal.
C'est très relatif. Et, je veux dire, même à travers l'histoire, quand on étudie les coutumes, les choses changent tellement radicalement. Mm-hmm. Je veux dire, bon, aujourd'hui, tu parlais de la communauté gay. Même aujourd'hui, à divers endroits sur la planète, on n'a même pas le même consensus. Dans certains pays, c'est dangereux pour ta vie. Ici, on peut se marier, etc. Tu sais, si on commence à penser à prendre en compte ce dont les autres pensent, c'est difficile d'être dans le bien ou le mal parce que de toute façon, c'est une illusion, à mon avis. Tu sais, la dualité, il n'y a que ce qui est. Un enfant qui vient au monde, il se fait tuer quand très jeune, on peut dire « Ah, c'est mal », mais on peut dire que cet enfant avait choisi de venir pour faire réfléchir sa communauté, peut-être. T'sais, cet enfant est un enfant qui se fait violer, il se fait battre, il se fait mettre le feu après. On dit « Ah, ça n'a pas d'allure, c'est juste un enfant », mais c'était probablement ce qui s'était donné à être pour faire réfléchir la communauté sur des choses qu'on ne devrait pas faire. Mm-hmm. Ouais, toujours un contraste.
Ouais.
Dans le sens de ces exemples aussi, j'ai déjà entendu le fait de l'avortement d'une femme c'était pas la femme en tant que telle, la mère qui portait l'enfant, mais c'est l'enfant en elle qui souhaitait ne pas voir le jour. Là. Donc, ou encore des enfants très jeunes qui meurent, puis donc ils sentaient que la vie, la réalité dans laquelle on est, sur Terre, n'était pas la vibration énergétique, ne leur convenait pas. Ils sont morts d'une maladie infantile de toutes sortes de façons. Un enfant peut mourir avant l'âge de 10 ans ou peu importe le moment de l'enfance. Là. Et c'est comme si, au-dedans de lui-même, il avait ressenti que cette réalité de la vie dans laquelle on existe, dans laquelle on vit, n'était pas appropriée pour lui. Il sentait qu'il n'allait pas pouvoir être heureux, qu'elle vive une vie de calvaire. Donc, peut-être en lui, il y a un mécanisme quelconque qui s'est passé. S'il est donné un cancer ou quelque chose comme ça, un événement tragique, un gros accident de voiture ou quoi que ce soit, ou d'avion, même si c'est rare, hein, parce qu'encore là, on peut extrapoler. Hein, il y a peut-être moins de rien accidentel qu'un accident, même les accidents d'avion. Peut-être c'est un regroupement de gens qui voulaient vivre, qui voulaient interrompre leur vie à un moment donné. Parce qu'ils ne se sentaient plus, il y avait une raison quelconque. Ils se sont interpellés.
Il y avait un terminé.
Est-ce que leur vie était un échec ou allait devenir un échec? Parce qu'on parle du négatif et de ce qui est mal. Peut-être on peut le voir d'une façon bien concrète. C'est des échecs en nous ou des côtés de nous-mêmes que l'on aime moins. Des facettes de soi, des manières dont on a de se comporter ou d'interagir avec les gens. Mais l'échec personnel dans nos vies, dans ce que l'on réalise, c'est une forme de mal, évidemment. Puis si, peut-être ça peut nous guider aussi.
Ça donne une forme d'intériorité aussi. Ça permet de prendre conscience. Bon, moi, j'ai un exemple aussi. Moi, j'ai pas beaucoup de mémoire là, de ma jeunesse parce que ça allait tellement bien chez moi, dans ma famille. Je manquais de rien, j'avais de l'amour. Mes premières mémoires commencent quand j'ai commencé à aller à l'école. Par contre, j'ai rencontré un homme qui, lui, avait des mémoires à partir de 6 mois. Mais c'était sa mère qui se faisait battre par son père, puis lui qui se faisait ramasser aussi par son père, et puis qui essayait de protéger sa mère. Donc, c'était des mémoires assez douloureuses, mais il se souvenait. Donc, dans son cas, il avait une conscience aiguë incroyable. Il était très conscient de certaines choses, alors que pour beaucoup de gens, ça ne fonctionnerait pas. Il serait pas con. La majorité des gens sont des endormis sur la Terre. Mais lui, par le mal, ce qu'on considère le mal, hein, la violence familiale, on peut dire que c'est mal, mais en même temps, ça l'a amené vers le mieux. Aujourd'hui, il reste dans l'étage au-dessus de chez son père. Il a accepté. Son père s'est excusé. Il a accepté les excuses de son père. Il est relativement en paix. Et c'est sûr que ça laisse des marques, là, mais en même temps, cet homme-là, à mon avis, est beaucoup plus équilibré que d'autres qui sont toujours vécus dans la ouate et qui n'ont pas vécu de choses qui les ont ramenés dans la conscience. Mm. Ici, c'est facile. Moi, j'ai des gens que je connais qui viennent un peu partout sur la Terre et puis ici, ils trouvent que c'est trop facile. Puis c'est vrai que c'est très facile. Si on se donne la peine, c'est très facile. Moi, j'ai vécu longtemps sans presque rien et c'est facile de trouver de la nourriture, c'est facile de trouver de l'argent. Alors que dans d'autres pays, j'aurais été laissé à moi-même et j'aurais été dans la misère la plus noire. C'est une question de contraste.
Tout est relatif.
Et tout est relatif.
Sur l'échelle du temps, tout est relatif. Oui, moi, je peux aussi faire réflexion dans le passé. Tu penses, est-ce que ça, cet événement-là, a été mauvais pour toi? Est-ce que ça a été vraiment une perte? Est-ce que ça a été vraiment un gain? Ça dépend, tout est relatif. Et puis, plus que tu vois ces choses-là, cette pièce de théâtre-là qui se passe dans ta vie, à un moment donné, tu viens qu'à faire ta distinction. Ça aide à ces drames-là, plus, moins, bon, mal, aide pour moi à cerner et à identifier l'aspect de l'être qui voyage dans le temps, qui passe à travers toutes ces séquences d'événements-là, et faire un contraste entre cette comédie humaine que plus on avance, plus c'est fou, puis plus c'est insensé, et notre vrai aspect permanent et éternel de nous-mêmes qui témoigne de ça, puis qui dit « ça se peut-tu? C'est-tu incroyable avec un peu? » Et puis, tu navigue avec un émerveillement d'un côté, du bonheur mais que tu mets en pratique de l'autre, et en même temps un sens de compassion, d'appréciation et de compréhension de tout ce qui se passe, parce que c'est pas toujours les gens opèrent, je disais tantôt que les gens opèrent en pensant qu'ils font le bien tout le temps. Ça paraît pas toujours évident comme ça. Puis il faut que tu aies beaucoup de flexibilité dans ton esprit pour puis de marcher dans les souliers de quelqu'un d'autre ou de t'imaginer que tu peux pour comprendre les autres. C'est pas facile.
Ah oui, je pense que tu mets le doigt sur quelque chose de très sensible. Hein. Certaines personnes qui croient faire le bien, mais ils se rendent pas compte qu'ils font mal autour d'eux. Mm-hmm. Bon, tantôt je parlais de l'Église, l'Évangile. Dans l'Évangile, c'est marqué « Ne luttez pas contre le mal ». Et l'Église nous enseigne de combattre le mal. Et ces gens-là, ils pensent qu'ils sont dans le bien. En vérité, ils ont fait beaucoup de mal. L'Église a tué des milliers de personnes, a torturé des milliers de personnes au nom de l'amour, au nom du bien. Et pourtant, aujourd'hui, les gens ne sont pas très heureux sur la Terre. Franchement, si c'était vrai que c'était un système qui fonctionne, ben, je pense que ça paraîtrait. Mais malheureusement, ces codes-là sont mal compris, sont mal utilisés. Et puis encore cette dualité, on pense qu'il faut être juste dans le bien. Mais ça veut dire qu'il y a une partie de toi-même que tu n'acceptes pas. Moi, c'est sûr, j'ai des obsessions, j'ai des lubies, j'ai des choses, mais j'ai appris à les accepter, les utiliser même dans mon œuvre. Cette folie, parfois, qui s'en prend à moi, je la recanalise pour faire le mieux, faire quelque chose de mieux avec juste que de m'auto-détruire.
Je voulais juste dire quelque chose à propos de le bien et le mal. Quand on observe le mal, on observe souvent, ça crée souvent une négativité, un feeling négatif, un sentiment négatif dans nous-mêmes. Et quand on est dans cette bulle-là d'observation du mal, parce qu'on le voit comme cette chose-là qu'on devrait enlever par chirurgie de la réalité, puis la mettre de côté, puis la complètement, Dans ce sens-là, je trouve que c'est une erreur, mais une des choses, des conséquences de regarder seulement le mal, c'est que ça va te mettre dans un état vibratoire qui va t'exclure du bonheur puis du bien-être, de la béatitude. Donc, ceux qui essayent d'agiter le poteau rose pour nous faire brasser puis nous faire peur, une des conséquences, si on mord dans l'hameçon, c'est d'être exclu de la béatitude pendant ce temps-là. Le but, c'est vraiment d'être dans la béatitude.
Bien, réfléchissez à ça, mes amis, pendant qu'on vous met une chanson qui s'appelle « Ma meilleure » de Lafouine et Zao. Puis on revient après avec ce thème « Le mal est le fumier dont le bien a besoin pour devenir le mieux ».
Quand je monte en arrière, moi je travaillais chez bébé le soir, elle était caissière. Et je venais la chercher dans ma pièce et à Tubiza. Je me rappelle qu'on cotisait pour se partager une pizza. J'avais rien dans les poches, on était riches du cœur. Et pour m'acheter des clopes, j'allais gratter mes grandes sœurs. On se retrouvait à l'arrêt de bus où on parlait des heures. Le soir je rentrais à pied, plus d'essence, contrôleur. Je voulais décrocher la lune, taper les pieds sur terre. Je voulais faire plein de thunes, tu voulais juste être mère. On se disait je t'aime 300 fois par jour en texto. On dînait aux chandelles avec 2-3 tickets resto. Mes baskets étaient trouées, tes collants étaient filés. Notre histoire était sincère, notre couple était stylé. Encore une nuit blanche à repenser à notre histoire. Ce soir mon cœur bat et ce n'est pas un bruit de couloir. Bruit de couloir.
Quand il n'y a plus d'espoir, moi je ne cesse de croire que ce sera meilleur.
Perdu dans le brouillard, on ne peut plus se voir. Mon amour n'est pas peur.
Je te mets.
Condamné, on se retrouvera avant la dernière heure.
Tu es mon meilleur, tu es mon meilleur. Mais ça dépasse, mais tu gardes le meilleur. Tu es mon meilleur, tu es mon meilleur. Les orages passent et le temps sera meilleur. Tu es mon meilleur, tu es mon meilleur. Mais ça dépasse, mais tu gardes le meilleur. Tu es mon meilleur, tu es mon meilleur. Les orages passent et le temps sera meilleur.
Et quand la gloire, les euros viennent, les galères s'enchaînent. Et les amis fidèles se font si rares que les je t'aime. On roule dans une grosse voiture, on cesse d'investir. On passe devant l'arrêt de bus mais on n'a plus rien à se dire. Pardonne-moi pour toutes les promesses que je n'ai pas tenues. L'amour a ses raisons, le temps fait de nous des inconnus. Un jour tu prends la porte, un jour je suis ton amour. Malgré l'orage, les tempêtes, je t'aime comme au premier jour. Tu m'écrivais au placard, moi je répondais rarement. Économie de feuilles ou avarice de sentiments. Souvent j'ai mal agi, t'as souvent commis des erreurs. Mais je veux recoller les morceaux car tu restes ma meilleure. On avait tout pour être heureux mais suffit de rien pour l'être. Et si l'argent est roi, les sentiments ne sont plus.
À propos sur le bonheur, notre thème aujourd'hui est « Le mal et le fumier dont le bien a besoin pour devenir le mieux ». J'aimerais revenir sur le fait que, bon, le bien et le mal, c'est très relatif, que tout dépend de la perspective dont on le voit. Je veux dire, si on pense à la merde, c'est quelque chose de mal aujourd'hui, hein? on veut s'en débarrasser, etc., mais en vérité, on peut très bien utiliser la merde comme un engrais. Les fermiers l'ont très bien compris. Mais si elle est mal utilisée, puis on la met dans des piscines, puis ça devient un contaminant majeur pour l'environnement. Alors que si elle est bien utilisée, elle peut être extrêmement nutritive. Donc, tout est une question de perspective. Mm-hmm. Et tantôt, on en a parlé aussi, que quelqu'un qui agit au nom du bien peut très bien faire le mal autour de lui, sans même s'en rendre compte, rendre les gens malheureux. En voulant faire le bien, on a plein d'exemples de prédicateurs, de gens comme ça qui croient bien faire, mais qui en vérité font beaucoup de mal.
Moi, ça me fait penser à comment j'étais lorsque j'étais plus petit ou jusqu'à peut-être début vingtaine, jusqu'à un moment où j'ai était plus en contact avec moi-même. J'étais quelqu'un qui, lorsque j'étais jeune, j'étais pas capable d'exprimer de la colère. Il y avait de quoi, un mécanisme en moi qui bloquait. Sans doute, ça vient de mon éducation et tout. On devait me dire, ah, c'est pas beau, c'est pas gentil d'être fâché ou quoi que ce soit. Ça doit venir de mon éducation, des commentaires de mon entourage, de ma mère notamment, tout ça. En tout cas, j'ai resté pendant une longue partie de ma vie. Puis, à l'adolescence ou ensuite au cégep et tout, j'ai consulté en relation d'aide, une psychologue momentanément, là, juste pour mettre des choses en perspective, pour mieux me comprendre, mieux me connaître et tout. Puis justement, c'était un point qui l'avait étonné, puis elle avait mis le doigt là-dessus. Puis après, j'ai réussi à trouver des situations dans ma vie qui me fâchaient. Puis même si je me sentais tellement bloqué, pour moi, cette colère-là, c'était comme quelque chose de très mauvais, hein, c'était vraiment le mal. Non, moi, je suis Jacques, je suis quelqu'un de très, très gentil, donc jamais j'exprimerai ma colère. Donc, tout ça, donc au fil du temps, j'ai réappris et je me sens beaucoup mieux maintenant, plus libéré, plus détendu. J'étais tellement anxieux, j'avais une grande nervosité en moi quand j'exprimais pas des émotions comme ça de base ou des choses qui nous énervent, qui nous dérangent en soi. C'est comme si je n'étais pas en contact avec toutes ces émotions-là. Je les bloquais. Il y a des mécanismes de défense, comme on parle en moi. Je ressentais pas ça. Donc, maintenant, c'est tout le contraire. Je peux ressentir tout ce que j'ai le goût, tout ce qui ne va pas, tout ce qui va bien. Je les ressens dans leur pleine mesure parce que je ne serais pas quelqu'un, un addict aux antidépresseurs. Parce que moi, j'aime vivre les choses. J'aime vivre les émotions, ce que je ressens, ce qui est beau, ce qui est moins beau et tout. Ça me fait penser à un autre fait personnel ou une période de ma vie où j'avais un travail ou une mauvaise évaluation dans le cadre d'un travail. Puis c'était tellement horrible, on dirait que j'aurais, comment la personne m'avait évalué, comme si j'étais le pire des employés qui existait sur la Terre. C'est le même que je me sentais après cette évaluation-là. Donc ça a tellement été fort, j'ai comme renoncé à tout en lien avec cet emploi-là, je suis devenu en arrêt de travail, puis j'ai vécu à fond cet état-là, comme un moment, là, comme si j'étais en plein burn-out. Mais je ne l'étais pas en fin de compte, mais j'ai accepté de vivre pleinement cette insatisfaction qui venait d'une évaluation, en tout cas d'une supérieure immédiate. Puis, en me donnant un moment de recul, d'arrêt total, c'est incroyable, je pense que je me suis tellement reposé, reconstitué, etc., que depuis que j'ai repris ce même travail, je me redécouvre et je n'ai jamais été aussi bon dans mon travail que maintenant et je n'ai jamais autant reçu d'excellentes évaluations. Donc, en vivant pleinement ce mauvais-là, cet état-là qui avait été très dur, je trouvais que l'évaluation non plus n'était pas juste. Mais là, c'était quoi de m'aider de me rebeller et de poursuivre, de faire un grief contre cette personne-là? Mais non, je l'ai vécu pleinement et j'ai mis de la conscience là-dedans. J'ai fait une préparation gâteau prêt. Il a levé au four. Mon gâteau, il est très bon en ce moment. Je vous donnerai la recette un jour.
Moi, j'aimerais parler de ramener ça encore en contraste avec ce qu'on parlait de qu'est-ce qui est bien pour un et peut-être mal pour l'autre. Un exemple qui me vient à l'idée, c'est l'usage de la viande de porc. Mm-hmm. Alors, on sait que dans certains contextes, culture ou religion, le porc, c'est vraiment néfaste, ça représente vraiment quelque chose de très méchant, de très négatif, à se tenir loin. Et pourtant, en contraste, si on prend une culture comme la Chine, le porc dans la culture chinoise est vu comme la perfection. La raison, c'est que le porc, toutes les composantes du porc dans la culture chinoise ont une utilité, ont une valeur, peut être utilisé pour faire quelque chose, toutes les parties sans exception. Alors, eux autres voient le porc comme l'idéal de la perfection. Donc, on veut ressembler au porc dans la culture chinoise. C'est curieux à dire, hein? À cause de cette pensée-là, on veut ressembler à qu'est-ce qui est parfait, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui peut... Toutes les parties sont utiles.
Mais étrangement, dans l'Occident et l'Orient, on a beaucoup de symboles comme ça qui sont radicalement opposés. L'autre fois, je parlais du dragon. Mm-hmm. Le dragon, ici, représente l'ego, la chose à abattre. Dans les films, c'est toujours le mauvais, le méchant. Alors qu'en Orient, le dragon représente la prospérité, c'est tout autre, c'est incroyable. Je voulais revenir sur ton idée aussi d'appuyer un peu d'appuyer le mal, si on peut dire.
Ouais, ce que l'on vit, ouais.
On le vit présentement dans les rues à Montréal, les étudiants se manifestent contre l'austérité, Mais pour moi, c'est une manière... Okay, je suis d'accord sur le fond. C'est sûr que c'est inadmissible. Mais la manière qu'ils le font, eux autres, ils se mettent devant les problèmes. Alors que tout simplement, s'ils l'approuvaient, ils disaient « OK, allez-y. Vous êtes tous des politiciens perdants. Alors, on va juste simplement arrêter de voter. On va... » Je pense qu'il y aurait une manière d'approuver le mal, mais... En devenant passif. Et là, je pense qu'on fonctionnerait. Si, sur la Terre, les gens arrêtaient tous de payer leurs impôts, ils arrêtaient tous d'aller à l'école, mm-hmm. d'un coup, il y aurait pas... Là, le gouvernement n'aurait pas le choix d'écouter, puis mm-hmm. il y aurait un changement.
Mais... Non, une non-participation à large échelle pacifique.
Un désinvestissement mm-hmm. total, mm-hmm. mais pour moi, c'est un peu une manière d'appuyer le mal, leur dire « Vous êtes là, OK, mm-hmm. vous êtes là. » On peut pas. Moi, je suis comme ça, de toute façon, moi, je n'ai jamais voté. Et d'une manière, ma manière passive, c'est comme si je les appuyais. Je dis, allez-y, faites ce que vous avez à faire. Et moi, je suis pas là. Je ne comptez pas sur moi.
C'est sûr, nos réflexes premiers, c'est toujours de contester. Quand il y a de quoi qui va pas, qui nous convient pas, qui nous dérange, quand on voit ces réalités-là de politiciens corrompus ou autres, ou des mesures, on dit, il y a des faits d'actualité qui disent qu'en ce moment, le gouvernement qui est en place au Québec est en train de tout ruiner, de tout défaire, notre filet social accumulé de protection, de programmes sociaux intéressants, pour tous, pour un accès, avoir un accès plus facile aux soins de santé, à l'éducation, etc. Puis de voir que tout est en train de changer, tout est en train de se détruire, au profit de qui, hein? Ça favorise, j'imagine, les entreprises, tout ça. C'est comme si l'individu n'est plus considéré dans sa pleine mesure, mais c'est pour ça que je ne peux aucunement les condamner, les étudiants, en même temps.
Mais ça, c'est le message que les médias envoient, et ces médias-là sont possédés par l'appareil manipulateur plutocratique. Dit qu'il y a de l'austérité, qui dit ça?
Ouais, exactement.
Il y en a qui finissent par le croire tellement.
Mais qui, les médias, la plupart du temps, vont les rejeter, ne les appuient pas, les étudiants, dans les démarches pour contester, pour faire des manifestations,
Le système est malade. On élu des gens. On élu des gens qui sont. Les élus sont des gens qui n'ont pas la crainte des électeurs. Et ceci est le problème. Il faudrait qu'il y ait une dynamique complètement inversée, puisque toute personne qui est élue doit craindre les électeurs, car eux devraient être en mesure de pouvoir vraiment les botter de leur siège s'ils font pas le bien pour les gens qui les ont élus. Donc, on n'a pas ce système. En ce moment, on craint nos élus.
Mais en même temps, s'il faut appuyer... pourquoi appuyer les étudiants? Moi, je ne crois pas qu'ils sont dans le bien non plus. Il faut dire qu'ils sont dans le bien ou dans le mal. Pour les étudiants, aucune philosophie.
Ils savent juste reconnaître qu'est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Ouais, ils contestent.
Puis en faisant ce qu'ils font, ils veulent amener la lumière sur quelque chose, mais ils n'ont pas l'autorité, ils n'ont pas le pouvoir, puis c'est dans les chartes, puis les constitutions, puis ces choses-là que ça doit être regardé, ces droits-là, ces privilèges-là, ces règles-là. Et en ce moment, on n'a pas ce pouvoir-là, le peuple. On a une petite gang là, qui est en pouvoir.
En même temps, dans l'époque, en 2012, avec Gabriel Nadeau-Dubois, avec son livre « Tenir debout », je ne l'ai pas lu, là, « Se tenir debout », »,« Tenir debout », quelque chose comme ça.
Tenir tête.
Ah oui, je confonds avec quelque chose d'autre. Mais ce que je veux dire, c'est que quand même, il y a eu un résultat bénéfique au bout du compte pour eux. Parce que, en quelque sorte...
Encore pire qu'avant.
Oui, mais je voulais dire bénéfique, c'est dans le sens que leur objectif premier, c'était de ne pas accepter cette hausse astronomique des frais de scolarité. Au moins là-dessus, ils l'ont eu.
Mais
jusqu'à maintenant.
Il y a encore eu des hausses.
Mais il n'y a pas eu aucune hausse. C'était comme deux tiers d'augmentation. Plutôt que 1 500, ça allait aller vers 3 500 par session. Il n'y a aucunement question encore aujourd'hui de frais de scolarité dans ce niveau-là.
C'est des professionnels des chiffres, les économistes. Donc, ils ont peut-être joué avec certains chiffres et tu crois peut-être que ça l'a changé, mais ils ont coupé ailleurs. Ils ont déplacé des chiffres dans leur échiquier.
Si les frais de scolarité sont relativement pareils, ça ne veut rien dire.
J'ai payé plus d'impôts. Les taxes ont continué d'augmenter. C'est toute une grosse combine. Et moi, je ne les crois pas du tout. Je crois à rien de ces gens-là. Ils nous volent, c'est évident. Puis si je n'ai pas le choix, maintenant, je les paye, mes impôts. Mais je le paye parce que si je le fais pas, je vais avoir des problèmes. Il va falloir que je me débatte. Donc, j'appuie ce mal pour me sentir bien. Je leur donne ça, cet argent. Mais ça finit par me revenir de toute façon. Mais c'est déjà tout pour aujourd'hui. Tu voulais peut-être dire un mot rapide?
Oui, rapide. Je veux dire que, il faut des fois, moi, je me rappelle que le bien et le mal font toujours partie du paysage. Et d'éviter de tomber dans la peur, quand on l'observe, le mal, d'éviter de tomber dans la peur parce que ça nous exclut du bonheur. La peur nous exclut du bonheur. En fin de compte, la dernière chose que je voulais dire, c'est essayer donc d'être la raison de faire sourire quelqu'un.
Et une petite phrase pour finir l'émission.
Oui, une pensée d'Arnaud Desjardins. Le bonheur ne dépend pas de ce qui nous manque, mais de la façon dont nous nous servons de ce que nous avons.
Et nous allons vous laisser avec Berry et cette chanson qui s'appelle « Le bonheur ». Je voudrais remercier le Mouvement Jovialiste et Radio Centre-Ville de nous appuyer dans ce projet. Et je vous souhaite bonne semaine à tous.
Bonne semaine.
Bonne semaine.
Visitez propossurlebonheur.com.
Ne changera rien, on s'adore, on s'entend.